Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire. Nous sommes aujourd'hui en pré-enregistrement et j'ai le très grand plaisir de recevoir Anne Mézin. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour d'être aujourd'hui au Mardi de la mémoire. Vous allez vous présenter parce que vous avez eu des responsabilités aux Archives nationales. Vous êtes historienne. Vous avez publié et consacré, il me semble, une partie de vos travaux à ces Français qu'on qualifierait de Français de l'étranger, hein, de nos jours. Ces Français qui partent de la France pour aller apporter leurs compétences ou bien chercher du travail ou des richesses ailleurs. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions Göttner un magistral dictionnaire biographique de la communauté française des Français des échelles du Levant et de Barbarie de François Ier à Bonaparte. Et cela va être le sujet de notre émission aujourd'hui. Alors, Anne Mézin, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs.
En fait, tout est parti d'une histoire de consul de France à l'étranger quand j'ai commencé, il y a plus de 40 ans, à travailler sur un de mes aïeux qui était consul en Espagne. Et c'est un sujet, j'ai commencé par les consulats d'Espagne et ça s'est élargi à tous les consulats d'Ancien Régime. Et c'est là que j'ai rencontré Catherine Vigne, qui est la descendante d'Auguste Bopp, qui a été ambassadeur de France en Chine, il est mort là-bas, et qui a été en poste comme consul général à Constantinople, à l'époque c'était encore Constantinople, et à Jérusalem. Et c'est le premier qui a travaillé systématiquement sur les consulats. Donc notre partenariat avec Catherine a commencé en 1989, nous avons été présentés par des amis communs. Et depuis, nous avons toujours travaillé ensemble. Alors, pour ce qui est des dictionnaires biographiques historiques, ce sont les conséquences des dépouillements que j'ai faits pour les archives nationales de fonds consulaires. Et à chaque fois, je notais tous les Français qui traînaient pour ne serait-ce que simplement pour une histoire d'harmonisation des noms, puisque avant Bonaparte, enfin avant Napoléon, il n'y a pas de fixation des noms propres. Et pour m'y repérer au milieu de gens qui portaient souvent les mêmes prénoms et les mêmes noms. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur des dictionnaires. Le premier dictionnaire qui a été publié en 2010, c'était sur les Français de Russie au siècle des Lumières, avec Vladislav Rejewski, un universitaire russe qui est devenu un grand ami. Et puis, avec Catherine, nous nous sommes attaqués à Constantinople, à la suite de mon inventaire de la correspondance commerciale de l'ambassadeur de France à Constantinople, et au Levant et Barbarie, aux échelles de Levant et Barbarie, parce que c'est incontournable pour l'histoire à la fois des relations internationales de la France et du commerce en Méditerranée d'Ancien Régime.
Oui, et puis je dirais pour nos auditeurs qu'il y a alors une multitude évidemment d'intérêts, mais j'en mettrai deux en avant. Il y a d'une part la possibilité, grâce à ces personnages, d'ouvrir un champ historique plus vaste qui est l'histoire de la présence française dans ces lieux particuliers de François Ier à Bonaparte, qui est quand même une vaste période puisque ça couvre quasiment 3 siècles, hein, en tout cas presque 300 ans. Et puis un autre intérêt qui va être d'utilisation, qui est la possibilité pour des historiens, pour des chercheurs, pour des familles, pour des descendants, de puiser dans votre dictionnaire des noms de famille et de voir ce que leurs ancêtres ont pu faire à cette période dans telle ou telle région.
Alors, oui, j'en conviens avec vous. Je veux simplement préciser la période historique. En fait, après la chute de Constantinople et sa prise par les Ottomans en 1453, il y a eu une période de flou au niveau de la présence européenne, qui était alors largement dominée par Venise et Gênes. Et puis, François Ier est arrivé, est devenu roi de France. Il a engagé ses campagnes d'Italie. Il a été fait prisonnier à Pavie. Et il fallait continuer, il voulait continuer la lutte contre les Habsbourg. Et c'est pourquoi il s'est rapproché de l'Empire ottoman et de Soliman le Magnifique. En envoyant un premier émissaire permanent. Donc, c'est pour ça que le début de notre période est François Ier, parce que c'est le début d'une représentation diplomatique permanente à Constantinople, qui s'est arrêtée brutalement en 1798 avec l'invasion d'Égypte par les Français. Donc, de notre point de vue, c'est une période cohérente, puisque même s'il y a eu des histoires dans les années 1660, 1670 avec les ambassadeurs Lahaie-Ventlet, le père et le fils, qui sont un peu rentrés en France, les relations diplomatiques n'ont jamais été suspendues entre le roi de France et le sultan jusqu'à l'invasion de l'Égypte par les Français. Donc pour nous, c'était une période cohérente qui est confortée également par les archives, parce que les archives consulaires d'Ancien Régime sont conservées aux Archives nationales jusqu'en à la fin de 1792. Et ça se rapporte à l'histoire des consulats. Les consulats d'Ancien Régime, depuis Colbert, dépendaient du département de la Marine. Donc leur ministre de tutelle, c'était le secrétaire d'État de la Marine, et non pas le secrétaire d'État des Affaires étrangères, comme ça l'était avant. Et après le 14 février, le décret du 14 février 1793, qui a rendu les consulats aux relations extérieures, où ils sont toujours depuis cette date. Donc, vous voyez, il y a une double cohérence dans notre choix des bornes chronologiques.
Oui, bien sûr. En
Ça,
fait, on peut peut-être, pour résumer à nos auditeurs, leur dire que grosso modo, de 1535 à 1798, on est dans une période où, légalement, de façon institutionnalisée, de façon administrative, il y a officiellement une présence française. Avec ses règles, ses lois, ses codes, etc., qui est installé de façon permanente et continue de, grosso modo, 1535 à 1798.
exactement. La deuxième chose, c'est que en nouant ces relations privilégiées avec l'Empire ottoman, ce qui a valu à François Ier enfin, la réprobation du monde chrétien, puisqu'il nouait des relations diplomatiques avec l'infidèle, François Ier, pour justifier sa position, s'est présenté comme le protecteur des catholiques latins, des catholiques latins dans l'Empire ottoman. Alors là intervient aussi le facteur géographique. Quelle est l'étendue de l'Empire ottoman et à quoi ça correspond, à quoi correspondent les échelles? Alors, le Levant, c'est grosso modo Dubrovnik, enfin à l'époque ça s'appelait Raguse, l'Albanie, la Croatie, l'Albanie, ça c'est sous, c'est pas exactement l'Empire ottoman, mais ils sont tributaires, ils doivent verser un tribut et ils ont quand même une administration ottomane qui est sur place, et ça va jusqu'à l'Algérie. Et puis, on a rajouté à notre cadre géographique le Maroc, parce que dans la classification d'Ancien Régime, le Maroc était considéré comme pays non chrétien, ce qu'il est toujours, les consulats s'appelant soit les consulats de Levant et de Barbarie, soit les consulats de pays de chrétienté. Donc c'est pour ça que c'est cohérent aussi de ce point de vue-là. Donc nous allons jusqu'au Maroc, étant donné en plus que le personnel marin, commerçant ou négociant, était le même que dans les autres échelles. Voilà le cadre géographique. Et puis du côté de l'Est, ça va jusqu'à Bagdad, l'Irak actuel, enfin Bassora, etc. Tout ce territoire est assez cohérent et correspond à l'histoire de l'époque.
Alors là, dans votre titre de ce nouvel ouvrage, ce nouveau dictionnaire, Les Français des échelles du Levant et de Barbarie, vous distinguez donc ces deux appellations de Levant et de Barbarie. Est-ce que l'on peut dire que la Barbarie, c'est l'Afrique du Nord et...
Je vous montre la carte, voilà.
Très bien.
Comme ça, vous voyez, donc vous avez en orange ce qui correspond à la Barbarie,
D'accord,
c'est-à-dire
donc
les
l'Afrique du
peuples,
Nord.
c'est ça le Maghreb actuel. Et après, ce qui est en vert, c'est c'est ce qui correspond au Levant. Vous voyez qu'il comprend aussi la Grèce à l'époque, hein, la dépendance de la Grèce, c'est
Bien sûr.
1830. Donc vous voyez, donc vous avez à peu près l'étendue de la présence, enfin des échelles. Une échelle étant un port, en fait, ou une col et dans laquelle on avait eu le droit d'installer une colonie européenne. C'est ce qu'on appelle les nations. Donc, ça s'appelait la nation française, dont le consul était le chef et qui disposait d'un bureau avec des députés. Et grosso modo, une échelle, ça ne correspond pas à toute la population française. Enfin, une nation ne correspond pas à toute la population française de l'échelle, mais grosso modo, c'est comme quand vous êtes dans un immeuble, vous avez les copropriétaires et les locataires. Ben, il faut se dire que la nation, ce sont les copropriétaires. Ça équivaut aux copropriétaires. Donc, ils ont des pouvoirs financiers, des pouvoirs, le tout sous la direction du consul qui, lui, a un certain nombre de fonctions qui permettent la vie de l'échelle et des nationaux présents sur place.
Alors, d'un point de vue sémantique, le mot échelle, comment s'est-il retrouvé à désigner un port?
Parce qu'en fait, ça vient du mot italien et qui désigne une jetée, un quai, si vous voulez. Donc, ça a dérivé sur un port. Voilà.
D'accord. Et par rapport à un comptoir, quand on parlait des comptoirs de la Compagnie des Indes,
Alors ça, c'est complètement différent. La Compagnie des Indes, ce sont des établissements commerciaux. Dans les échelles de Levant et de Barbarie, vous avez des comptoirs français, c'est-à-dire des grosses maisons de négoce internationales.
Oui, en fait, l'échelle, c'est plutôt le cadre administratif, quand le comptoir, c'est la société privée, l'entreprise
Oui.
financière, économique, marchande.
Oui, bah vous avez les comptoirs de la Compagnie d'Afrique, par exemple. Qui se répartissent entre la Tunisie et l'Algérie. Là, ce sont des concessions qui ont été faites pour faire du commerce, comme pour les comptoirs de la Compagnie des Indes. Mais l'échelle, c'est plus qu'un cadre administratif, c'est géographique, c'est un port du Levant ou de l'Afrique du Nord. C'est
D'accord.
avec une structure administrative pour la gestion des Français qui y vivent.
D'accord.
Mais
Alors,
c'est extrêmement important, oui.
est-ce que Anne Mézin, je rappelle aux auditeurs que j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, vous êtes historienne, quel est le titre que l'on vous donne? Vous êtes archiviste
Je suis honnêtement pas grand-chose, mais il se trouve que les hasards de la vie ont fait que, à partir de ma thèse, j'ai eu l'opportunité de rédiger des inventaires pour les archives nationales. Et à ce titre, j'ai été embauchée. Et ça a été un très grand bonheur puisque je travaillais dans d'excellentes conditions scientifiques et j'avais des beaux fonds d'archives. Je m'occupais, enfin, j'étais responsable de très beaux fonds d'archives, dont les archives des consulats, ce qui tombait bien puisque c'était ma petite compétence. Et puis j'avais aussi la série T des séquestres révolutionnaires, qui est une énorme série de plus de 5 500 articles qui rassemble les archives qui ont été saisies à la Révolution, aux émigrés et aux guillotinés, et puis aussi tout ce qu'on trouvait dans les voitures publiques. Voilà. Mais j'ai essentiellement travaillé sur les consulats, parce que c'était mon cœur de sujet, finalement.
Très bien. Oui. Alors, donc, ces Français des échelles du Levant et de Barbarie, de François Ier à Bonaparte aux éditions Göttner, j'aimerais que l'on revienne, s'il vous plaît, Anne Mézin, sur cette importance quand même qu'a pu paraître ce renversement des alliances apparent, en tout cas, de François Ier, après effectivement la prise de conscience par lui que l'ennemi était avant tout l'ennemi Habsbourg et qu'il fallait qu'il se protège avec d'autres alliés. Et donc, il va prendre cette alliance ottomane. Et comme vous dites, l'une des conséquences va être de faire de la France D'ailleurs, Napoléon III, je crois, renouvellera cette espèce de stature, hein, qui est de faire de la France et du roi de France le protecteur des chrétiens dans les terres des infidèles.
Oui, alors c'est dans toutes les instructions ambassadeurs, c'est très clairement, enfin c'est indiqué. Donc la France est le protecteur des chrétiens latins au Levant, ce qui a permis l'envoi de communautés catholiques, de communautés qui ont fondé des missions. Donc, il y avait les Capucins, les Jésuites, les Récollets, etc. Donc, tous ces religieux qui avaient des missions un petit peu partout. Donc, en général, il y avait à la fois la paroisse, ils desservaient à la fois la paroisse catholique dans l'échelle. Ils avaient des dispensaires ou des hôpitaux. Et puis, ils étaient les aumôniers du consul. Il pouvait, évidemment, on n'avait pas le droit, à part dans les missions, dans ces territoires qui étaient détachés du territoire ottoman, enfin, une concession un peu d'extraterritorialité, sauf que en général, ils n'étaient pas propriétaires des biens-fonds puisqu'ils n'avaient pas le droit. Mais il y avait donc cette possibilité d'avoir une communauté catholique latine qui était strictement surveillée. Les pères capucins, jésuites et autres n'avaient pas le droit de faire du prosélytisme, même auprès des chrétiens orthodoxes. C'était strictement interdit. Donc c'était assez limité. Mais bon, ils avaient un rôle énorme. Et puis il y avait évidemment Jérusalem, statut très compliqué, puisque différents États, enfin missionnaires de différents nations européennes se partageaient les lieux. Donc c'était, enfin, c'est rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là.
Oui, bien sûr. Mais alors, le statut des franciscains et de la custodie de Terre Sainte qui remonte bien avant François
Ben
Ier,
oui,
puisque dès
oui.
le XIIIe siècle, les franciscains sont quasiment les seuls gardiens justement des lieux saints.
Alors, les franciscains, donc appelés franciscains, capucins, récollets, enfin toutes les dénominations de la terre,
Recording in progress.
n'étaient pas tous français. Donc, vous aviez les nations européennes qui voulaient exercer un rôle par l'intermédiaire de ces différentes nations européennes. Donc, d'où les conflits. Et là-dessus, vous avez le roi de France qui dit, il n'y a que moi qui peux vous protéger, parce qu'il avait à l'époque, surtout sous François Ier et puis ses successeurs, était le seul à avoir conclu des capitulations avec le souverain turc, avec le sultan. Donc, les capitulations, ce sont des traités unilatéraux en principe, accordé par le sultan à chaque souverain français. Après, vous avez d'autres nations qui ont obtenu des capitulations, mais pendant quelques décennies, la France a été la seule à avoir ces capitulations. Alors, ça donnait différence. Enfin, il y avait un statut de protection des gens qui se mettaient sous la protection de la France, donc un statut, ils étaient exemptés de la taxe du carat, c'est-à-dire c'est un peu une capitation, ils étaient exemptés de certains nombres de choses, et puis surtout, le roi de France pouvait intervenir par ses consuls pour régler les différends entre les nationaux, aussi bien français que ceux qui étaient sous sa protection. Et ça ne passait pas par les tribunaux ottomans, ce qui était un gros acquis. Bon, et puis il y avait aussi des avantages purement commerciaux pour importer des marchandises du Levant, etc. Donc c'était quelque chose de très important et on a renouvelé les premières capitulations. Alors, elles ont été négociées en 1535 avec le premier représentant français permanent, Jean de La Forêt, mais la première capitulation officielle, c'est 1569, et après, ça a été renouvelé plusieurs fois jusqu'à celle de 1740 par le marquis de Villeneuve, qui était ambassadeur de France à Constantinople, et à l'occasion de la paix de Belgrade. Donc là, et ces capitulations sont restées en vigueur, enfin, c'était les dernières de notre période, en tout cas. dans chaque capitulation, il y avait de plus en plus de sujets abordés. Donc, on démarre avec une petite dizaine d'articles pour arriver en 1740 à près de 90 articles, vous voyez. Donc, ça, le champ d'action augmente.
Alors le champ sémantique, en tout cas, est perturbant parce qu'on a parlé tout à l'heure d'échelle. Maintenant, on
Oui.
parle de capitulation. Ce sont des termes que l'on utilise de nos jours dans des acceptions totalement différentes.
Alors,
Là,
capitulation avec un C majuscule.
Et
Oui, ben, ça veut dire qu'on sent, enfin, le sultan imposait, enfin, c'était son bon vouloir d'une certaine façon. Bon, en fait, c'était négocié, mais malgré tout, c'était lui qui avait le dernier mot. Donc, c'est pour ça, c'est un terme de relation extérieure, quoi, mais pas militaire dans
Oui,
ce
bien
domaine-là. Donc,
sûr.
il y a ça, il y a cet aspect-là, donc qui est vraiment très important, c'est le cadre général. Et puis, vous avez après un autre cadre juridique qui est toute la législation française qui a encadré le pouvoir des consuls au Levant. Donc, il faut se dire que jusqu'à Colbert, ce sont des charges. Il fallait, la monarchie avait besoin d'argent, donc elle vendait des consulats en propriété la plupart du temps des Marseillais, puisque Marseille avait des avantages exceptionnels pour le commerce, dont le droit de 20% dont étaient exemptés les ressortissants, enfin les Marseillais. Et Colbert, quand il est arrivé, n'a eu de cesse de casser ce système parce que les propriétaires du consulat n'exerçaient pas les consulats, donc ça fonctionnait pas très bien, etc. Et on est arrivé à une première avec l'ordonnance de la marine de 1681. C'était le premier texte qui a encadré les fonctions des consuls. Et on est arrivé après. Un siècle plus tard, à la grande ordonnance de mars 1781 sur les consulats, à la suite de la tournée d'inspection du baron de Tott et puis de l'action de l'ambassadeur de France, Saint-Prix, voilà, qui était un grand ambassadeur et qui a fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc vous avez toute une série, vous avez à la fois un cadre juridique extérieur, enfin international avec les capitulations, l'organisation des consulats, et puis se rajoute à ça les autorisations de résidence des Français pour leur permettre d'aller dans ces contrées qui n'étaient pas des contrées chrétiennes. Donc à partir de 1685, il a été exigé aux gens qui voulaient partir au Levant d'obtenir une autorisation de résidence. Et là, toute une législation s'est mise en place pour savoir qui partait, pour dire que ben, vous ne restiez que 10 ans sur place. Après, il fallait renouveler et c'était vraiment un pouvoir discrétionnaire des autorités. Que vous ne pouviez pas emmener votre famille, que vous étiez, enfin, vous voyez, toute une série de contraintes, et c'est quelque chose d'extrêmement important, la résidence, les autorisations de résidence au Levant. C'est un système quand même qui a survécu jusqu'à Louis-Philippe. Vous voyez, ça couvre 1685-1831. C'est quelque chose d'absolument incontournable pour comprendre les conditions d'une installation dans ces contrées non chrétiennes.
Oui, puis là, on entre dans un schéma de pensée qui est totalement à l'inverse, et non pas à l'opposé, mais à l'inverse de notre schéma de pensée actuel. C'est-à-dire que nous, quand nous voyageons, on va solliciter de la part du pays dans lequel nous allons un visa.
Oui.
Qui va nous donner l'autorisation de séjourner dans ce pays, alors que là, on sollicite auprès de notre propre pays de départ l'autorisation de partir dans des conditions très encadrées, puisque en fait, se sous-tend tout de même le principe de la crainte de la conversion. On évite que le chrétien français ne devienne musulman ailleurs.
Alors, il y a cette raison-là, mais ce n'est pas la seule. C'est d'abord que c'est la fameuse formule de Jean Bodin, hein. Je vais vous la dire exactement, il n'y a richesse ni force que d'hommes. Donc, les hommes étaient importants. Par exemple, tout le personnel de la marine marchande n'avait pas d'autorisation de résidence au Levant. Ils passaient au Levant, ils passaient leur temps à faire des navettes, ce qu'on appelait la navigation en caravane. Mais ils étaient, eux, ils dépendaient de leurs amirautés respectives. Et ça a toujours été une lutte avec les Anglais, les Hollandais, pour les équipages des navires marchands, parce que la France utilisait plus de marins. Donc, il ne fallait pas que les marins soient débauchés. Donc, vous voyez, et puis les religieux qui passaient au Levant étaient obligés de prendre un passeport. Donc, on en trouve des quantités. Quand ils partaient de France, s'ils partaient d'Italie ou d'Espagne, ils n'empruntaient pas forcément un bâtiment français pour se rendre là-bas. Donc c'était un petit peu indépendant, mais voyez, donc vous étiez, alors c'est pas simplement la crainte qu'un Français enfin, se convertisse, c'est aussi que vraiment l'obsession du pouvoir français, c'est qu'il n'y ait pas d'histoire sur place, qu'il n'y ait pas pour schématiser un peu, de prise d'otage des Français qui étaient dans l'échelle, ce qui pouvait arriver et qui aboutissait en général au paiement d'avanies, c'est-à-dire de fortes amendes qui ruinaient le commerce sur place. Voyez, donc c'est un équilibre très très
Eh oui,
fragile
bien
entre
sûr.
beaucoup d'intérêts.
Oui,
Et
et
en
puis.
général, ceux qui se convertissent à l'islam sont des gens qui ont fait une banqueroute, soit qui ont eu une histoire de querelle, de meurtre, etc., et qui veulent échapper à la justice française.
Oui, en tout cas, on sent que le royaume de France est soucieux de ses hommes, ne cherche à ne pas les perdre. Le royaume de François Ier, si je ne me trompe, c'est à peu près 16 millions d'habitants, il me semble.
Oui, et puis c'est monté jusqu'à 25 millions à la veille de la
C'est
Révolution.
ça, voilà. Mais il me semble que c'est 16
Oui.
millions, des moyens mnémotechniques, 16e
Oui.
siècle, 16
Oui.
millions. Donc, on est quand même à cette époque le pays européen le plus peuplé. Hein, la
Oui.
richesse de la France, comme le dit Jean Bodin, ce sont ses hommes. C'est pas quelque chose de, c'est pas une formule toute faite, hein, pas du tout.
Non, 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 c'est important. Bon, entre-temps, quand même, entre François Ier et la Révolution, il y a eu quelques annexions qui ont amené quelques populations supplémentaires.
Bien sûr.
Mais
Oui.
en gros, l'essentiel de la population qu'on trouve dans ces échelles, à 80%, ce sont des Provençaux.
Ah
Hein.
oui.
C'est très provençaux et puis aussi originaire du Languedoc et de Roussillon. Bon, ça tient aussi au commerce que l'on fait. Pour ce qui est des maisons de commerce, l'essentiel de nos exportations, ce sont les draps de France, qui proviennent des manufactures de Provence, mais surtout de Languedoc et de Roussillon. Contrairement, par exemple, à l'Espagne, le commerce essentiel qu'on faisait avec l'Espagne, c'était aussi les draps de France, mais eux provenaient de Bretagne, de Normandie, du nord du pays. Vous voyez, là, ce sont vraiment les manufactures du sud de la France. Et puis, on importait de l'huile, des cendres pour le savon, pour les savons de Marseille. On importait évidemment des laines, ce qu'on appelait des drogrides, tout ce qui servait pour les médicaments, la fabrication des médicaments. On importait des soieries de la côte de la Palestine. On importait, voyez, donc c'était un commerce très riche. Mais nous, l'essentiel de nos exportations, c'était les draps de France et puis des produits manufacturés. L'essentiel. Et puis après, il y a eu aussi. On a aussi exporté le sucre et le café des colonies françaises d'Amérique, le café faisant une petite concurrence au café originaire de Moka, qui était le grand fournisseur avant cette période. Voilà. Et puis à toute cette population marchande, qu'elle soit implantée, enfin les négociants, tous les artisans, tout ce qu'on pouvait trouver comme population française, il ne faut pas oublier tous les artistes qui sont passés dans ces régions, les peintres, essentiellement à Constantinople, et puis les voyageurs qui ont produit des récits de voyage qui nous ont servi pour établir nos notices.
Oui, alors admettons, si vous le voulez bien, toute cette mosaïque de population, nous allons la reprendre un peu ensemble, parce que évidemment, c'est ce qui fait toute la richesse de votre ouvrage, au-delà du travail considérable que cela représente. Et nous allons nous interrompre un tout petit instant pour le bobino de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez les Mardis de la mémoire et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Anne Mézin, qui est le co-auteur avec Catherine Vigne d'un ouvrage très riche, plus de 1000 pages, aux éditions Göttner, Les Français des échelles du Levant et de Barbarie de François Ier à Bonaparte. Si vous n'avez pas entendu la première partie de notre émission, eh bien, écoutez-la parce que nous avons expliqué, détaillé ce qu'étaient ces échelles du Levant, ce qu'était cette barbarie, pourquoi ces bornes chronologiques entre François Ier et Bonaparte. Avant que nous revenions, Anne Mézin, sur cette mosaïque passionnante de population, je crois près de 18 000 notices que vous avez consacré à tous ces personnages que vous avez rencontrés au cours de ces 3 siècles et qui donc quittent la France pour partir au Levant ou bien en Barbarie, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Je voudrais revenir sur un point concernant François Ier. Peut-être deux choses. La première, c'est que François Ier non seulement s'allie avec l'Ottoman, mais il change le paradigme de la vision que l'on a vers le Levant et vers tout ce que l'on pourrait appeler maintenant le Proche et le Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça n'est plus uniquement aller délivrer les lieux saints, ça n'est plus exclusivement aller protéger les lieux saints, ça n'est plus qu'une vision religieuse. Mais c'est une vision économique rendue possible par un Moyen-Âge qui a couvé la science et qui permet une navigation dans des conditions d'une modernité révolutionnaire, on pourrait dire, hein, pour l'époque.
Alors, oui, c'est exact, mais cependant, les premiers consulats marseillais remontent au XIIe siècle. Donc, dès le XIIe siècle, il y avait des consuls des marchands qui étaient établis dans certains ports aussi bien de l'Afrique du Nord que du Levant. Et donc, mais la France n'avait pas les moyens, effectivement, de dominer et elle était obligée de passer par les Vénitiens et les Génois. Avec la chute de Constantinople, ces villes ont perdu de leur puissance et la France, la nation, enfin, l'État français se structurant après la guerre de Cent Ans, c'était possible pour lui de penser les choses d'une façon plus globale. Après, ce sont vraiment les consulats qui sont aussi la cheville ouvrière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient été, c'était des charges au début, qui étaient essentiellement entre les mains de riches négociants ou gentilshommes marseillais. Mais après, vous avez un personnel, toute une infrastructure d'hommes qui se rajoutent. Alors d'abord, vous avez l'ambassadeur, donc tous les ambassadeurs qui ont été envoyés là-bas, mais les ambassadeurs ne passaient pas seuls à Constantinople, ils passaient avec une suite. Et dans cette suite, il était indispensable pour eux d'avoir des interprètes. C'est ce qu'on appelle au Levant des droguements, au Levant et en Barbarie des droguements, donc des truchements, des gens qui étaient interprètes. Et finalement, à la fin du XVIe siècle, ces droguements étaient souvent d'origine génoise ou italienne, enfin, mais pas français. Donc l'un des soucis de la monarchie a été par crainte finalement d'une trahison, d'avoir des interprètes originaires français ou bien de la domination de la France. Et c'est pour ça que Colbert, toujours, a mis en place les premières écoles de jeunes de langue, c'est-à-dire ce sont les écoles ancêtres des langues
Langso.
sourdes. Voilà. Donc, et là, ont été formés à la fois des jeunes Français qui acceptaient de partir au Levant, peut-être de familles de consuls, et puis des natifs, des protégés français natifs du Levant. Donc la première partie, c'est tout ce qui est jeune de langue, Drogman, c'est une population extrêmement importante de la population étudiée. Ils ont une véritable carrière, ils passent d'échelle en échelle, ils ont des responsabilités de plus en plus grandes. Et en fait, dans leur formation, c'est une vraie école, en fait, hein. On leur apprend évidemment les langues, le grec ancien, le grec moderne, les langues turques, arabes, arménienne, mais aussi on leur apprend aussi le droit du commerce. Parce que essentiellement, ce n'est pas simplement une fonction politique, c'est aussi essentiellement une fonction commerciale. Donc, ils doivent pouvoir traduire quand il y a des accords entre les autochtones, enfin les Turcs en place et les négociants français. Ils doivent pouvoir traduire ces accords commerciaux. Donc, ils ont des fonctions très importantes. Et c'est toute une nébuleuse qui connaît parfaitement la région, puisqu'elle passe de port en port. Et l'ordonnance de 1781, la grande ordonnance des consulats, a plusieurs, enfin, une grosse partie sur leur fonction. Et cette ordonnance de 1781, elle a été renouvelée par celle de Talleyrand en 1815 et elle a été finalement utilisée jusqu'au Second Empire. Donc, vous voyez, ce sont des histoires à chaque fois, ça couvre, c'est une législation qui couvre un siècle. Donc, c'est très intéressant de le savoir. Il y a une continuité
Oui, bien sûr. Et ce sont des personnes, puisque 1781, on est encore sous l'Ancien Régime, donc dans une société d'ordre. C'est un personnel de la bourgeoisie, de noblesse.
Alors, les Drogman ou les consuls?
Non, les Drogman, tous ces
Alors,
interprètes.
les Drogman, ça dépend. Vous avez des familles absolument prestigieuses, par exemple les Testa, qui étaient aussi Drogman pour l'Empire. Et puis, vous avez des familles qui sont plus modestes. Par exemple, les Mertrudes, c'était à l'origine des chirurgiens de Haute-Marne, vous voyez, donc qui sont dont des descendants sont devenus Drogman. Vous avez les Fontons. Les Fontons sont originaires de la vallée du Rhône. Ils sont installés à Constantinople, et puis il y a une quantité absolument astronomique de jeunes de langue. Vous avez les Fornetti d'origine italienne. Vous avez, voyez, donc ce sont plutôt il faut plutôt les voir comme des dynasties. Alors, certains Drogman sont très riches, ceux qui ont des grandes fonctions, par exemple à l'ambassade, et puis d'autres subsistent difficilement dans les consulats, ayant la table et le couvert et le logement de la part du consul, et puis parfois des appointements sur certains droits sur les marchandises importées et un petit traitement de 200, 300, 400 livres par an, vous voyez. Donc ceux-là, en général, ils ont des nombreuses familles, ceux-là ont plus de mal à subsister. Mais certains sont des vrais seigneurs, hein, il ne faut pas le cacher, comme les grands négociants des places des échelles qui peuvent être, enfin, qui sont immensément riches. On a mis plusieurs tableaux. Les représentants sont des gens extrêmement importants.
Mais certaines personnes peuvent faire leur carrière et passer l'essentiel de leur vie à l'étranger.
Ah oui, complètement. Et puis surtout, donc ils montent tout premier, troisième Drogman, enfin élève, jeune de langue près du consulat, troisième Drogman, deuxième Drogman, premier Drogman. Et puis ils ont la consécration suprême qui est un brevet de secrétaire interprète du roi. Voyez. Donc là, ils peuvent venir en France et enseigner à la Sorbonne. Vous en avez plusieurs, les Pétis de la Croix, par exemple. Qui sont vous avez le père et le fils Jean-Baptiste Pétis de la Croix, et ce sont des personnages très importants. Ils traduisent tous les traités, vous voyez, tous les traités qu'on a pu avoir avec Alger, Tunis, Tripoli, Barbarie au XVIIe, XVIIIe siècle. Tout ça passe par leurs mains. Donc ce sont des gens qui ont un rôle, ils sont indispensables au système.
Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'aujourd'hui, au Mardi de la Mémoire, j'ai le plaisir de recevoir Anne Mézin, qui est l'auteur d'un dictionnaire aux éditions Göttner, Les Français des échelles du Levant et de Barbarie, de François Ier à Bonaparte, un ouvrage en deux volumes, hein, puisque on va de la lettre A à la lettre L, puis de la lettre M à la lettre Z. Est-ce que, Admézin, nous pourrions maintenant détailler un peu qui sont ces personnages? On a commencé donc à côté de ce corps administratif, de ces consuls, de ces droguements, donc qui, eux, j'imagine, ont leur famille. On passe pas sa vie là-bas sans épouse et sans enfant. Donc là, on a des autorisations, ce que vous appeliez ce système de la résidence, donne des autorisations à certains de vivre en famille.
Oui, tout à fait. Ceux-là ont leur famille, les consuls pas toujours. Ils doivent demander la permission au gouvernement, mais les droguements sont des natifs pour la plupart et donc ils ont des familles. Mais tous, quels qu'ils soient, du plus grand au plus petits, doivent quand même demander, quand ils veulent se marier, l'autorisation du gouvernement. Et c'est pourquoi, quand même, l'un des plus illustres des personnages mentionnés dans, enfin, c'est surtout dans le premier volume, Constantinople, mais Vergennes, le grand ministre Vergennes, a été ambassadeur de France à Constantinople pendant plus de 15 ans. Et en fait, il vivait avec la veuve d'un droguement, une Madame Testa, née, attendez, son nom m'échappe à l'instant, mais bref, elle était française d'origine, et il avait eu deux enfants, deux garçons avec elle, avant de l'épouser, sans prévenir le ministre. Et ça a été une des causes de son rappel en France, parce qu'il n'avait pas respecté la procédure. Et souvent, dans les correspondances consulaires, on voit des mentions de mariage célébrés par le prêtre desservant de telle église catholique latine, par exemple Saint Polycarpe de Smyrne, où le consul n'a pas été prévenu. L'église, rappelons-le, privilégiant toujours la volonté des époux sur le cadre juridique du pays. Donc, c'était un conflit direct entre les ordres religieux et le gouvernement. Donc, ces gens-là peuvent se marier, les négociants peuvent se marier sur place ou faire venir leur France, mais avec une autorisation. Et là, c'est vraiment du coup par coup. Mais on peut se dire que les négociants, ils sont là pour 10 ans. Après, ils retournent en France. Alors, ils peuvent aller se marier en France, laisser leur famille en France et revenir gérer leur entreprise, leur maison de négoce. Et puis, vous avez aussi le fait que, comme ils ne peuvent pas passer au Levant avant d'avoir 25 ans, en principe, pour les négociants, pour les commis, c'est un petit peu plus tôt, et les commis restent 1 an, 2 ans, c'est un petit peu leur école de commerce, vous voyez, ils retournent après chez eux et puis ils reviennent après prendre la régie du comptoir. Vous voyez, donc c'est quand même. C'est une liberté surveillée, hein, on peut dire, vraiment une liberté surveillée. Mais il y a beaucoup de femmes dans nos personnages et c'est pour ça qu'on a fait des listes thématiques, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de l'ouvrage,
C'est
pour
ça.
avoir des idées des différentes proportions. Et il y a quand même beaucoup de femmes qui sont répertoriées.
Alors, à côté donc de ce personnel que je qualifierais d'administratif ou de politique, il y a donc évidemment tout le personnel des négociants, des marchands, des commerçants, des marins, qui est un personnel de passage, vous nous l'avez dit, et qui est un personnel dont la proportion est plus importante, comment par rapport au personnel administratif, parce que j'ai donné le chiffre tout à l'heure de 18 000 personnes.
Oui,
18 000
pardon.
personnes, c'est à peu près tout ce que vous avez listé, pardon pour le mot qui n'est peut-être pas très joli, entre vos Français des échelles du Levant, de Barbarie et de Constantinople, il me semble, hein.
Oui. Je suis en train de chercher, parce que j'ai oublié les nombres, mais je vais vous dire, pour les négociants, ce sont des grosses populations, hein. Pour les femmes, voyez, on en cite 549, on en a identifié 549. J'essaye de trouver les négociants. Non, ils sont très nombreux. Et puis, pour le personnel navigant, on n'a évidemment pas tout le monde. En fait, nous, notre base de départ, ce sont donc. Y a, à côté de toutes les autorisations de résidence. Donc ça, vous avez, ça c'est conservé à la Chambre de commerce de Marseille, aux archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Bon, maintenant, c'est transféré aux archives départementales, mais enfin, ces archives se trouvent là. On a aussi ce qu'on appelle des états de français. Donc très vite, dès Colbert, on a demandé au consul ou à l'ambassadeur de dresser la liste des Français résidant sur place. Donc ça, ça a été un deuxième outil pour repérer les gens. Et puis, un troisième outil, ce sont les correspondances. Mais dans les correspondances, quand on cite quelqu'un, c'est que soit il lui arrive un malheur, soit il a perdu sa fortune, soit, ou alors de temps en temps, il a conclu des très beaux accords. Mais vous voyez, ce sont les gens qui ont quelque chose à signaler. Donc, il y en a beaucoup qui restent sur place. Et pour ce qui est du personnel navigant, vous voyez, on a des états de navires arrivant dans les échelles et en repartant. Et de temps en temps, on a des listes des équipages, des rôles d'équipage. Et c'est cela qui nous ont permis de repérer les marins. Les capitaines marchands, on arrive à peu près à les repérer parce que, puis on peut les suivre d'échelle en échelle quand ils font de la caravane, on arrive à peu près à les repérer. Mais on n'a évidemment pas pas tout le personnel navigant, on n'en a qu'une petite partie. Il aurait fallu qu'on dépouille les archives des amirautés, il nous aurait fallu une deuxième vie, vous voyez, pour faire ce travail.
Bien sûr, oui. Et alors, pour les religieux, vous travaillez sur les archives des ordres, sur...
Alors, les religieux, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs approches. Il y a déjà les passeports. Ils sont sur les listes de Français, ils sont détaillés sur les listes de Français, donc les couvents religieux, donc on les a comme ça. Et puis on a aussi tous les pèlerins de Jérusalem, ça c'est Catherine qui a fait le travail, donc toute inscription à la custodie de Jérusalem et de tous ceux qui se sont rendus en pèlerinage à Jérusalem, donc c'est comme ça qu'on les a approchés. Mais et puis après vous avez des gens prestigieux, puis des gens tout à fait insignifiants, donc évidemment les insignifiants sont parfois plus difficiles à trouver que les gens prestigieux, mais les gens prestigieux parfois sont pas faciles à identifier non plus. Mais voilà, donc on les trouve. Et puis on a aussi travaillé sur les archives de la Propaganda Fide à Rome. Et là, ça concerne essentiellement Constantinople, mais Constantinople nourrissant les autres, vous commencez dans un des couvents de Constantinople, et puis après, on vous envoie dans une mission grecque ou levantine. Et puis, on a aussi travaillé sur les archives des Capucins, des Jésuites. Alors, ça, c'est une petite chose qui est à savoir. Comme les Jésuites ont été expulsés de France sous Louis XV, comme de tous les pays européens, les missions ont été reprises par les lazaristes. Et les archives des missions jésuites d'Ancien Régime se trouvent en fait aux archives des lazaristes qui sont rue de Sèvres à Paris. C'est peu connu.
J'ai remarqué, pardon de vous interrompre, Anne Mézin, mais que Saint-Vincent de Paul ne figure pas dans vos notices. Alors, je sais qu'il y a tout un débat sur a-t-il vraiment été fait prisonnier ? Est-ce que, toute cette période chez son alchimiste, c'est assez mystérieux. Mais à moins que je n'ai pas trouvé son entrée...
on n'a pas mis, effectivement. Ben, parce qu'en fait,
il n'y a aucune preuve, de toute façon, de son passage. C'est très mystérieux.
Non, mais on aurait pu le mettre, mais ça, franchement, ça ne nous a pas, ça ne nous a même pas effleuré l'esprit parce que ça n'est mentionné nulle part.
Ça
aurait pu être par ricochet, vous voyez, mais ce n'est pas le cas. Donc non, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre.
J'avais un peu étudié la question parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude justement. Il fait état d'un combat naval dans lequel le bateau dans lequel il était a coulé. C'est comme ça qu'il a été pris. Il n'y a pas d'existence à cette date-là d'une possibilité de combat. Enfin, c'est assez mystérieux cet épisode dans la vie de Saint-Vincent de Paul. Donc, justement, ça m'a intéressé de voir qu'il n'y avait pas de notice le concernant. Alors, il y a toutes les personnes, je pense à Forbin. Alors, c'est plus tard, sous Louis XIV, quand il part avec son ambassade de Siam. Mais là, on est au-delà de votre Levant et de votre Barbarie. Mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes comme lui qui partent. Et puis, ils croient qu'ils partent pour quelques mois et puis en fait ils n'arrivent pas à rentrer et leurs séjours sont bien plus longs que ce qu'ils auraient espéré faire.
Oui, alors enfin, la Forbin, tout ça, les Forbin, ce sont des officiers de marine, la marine du roi. Donc là, on
Bien
en a un
sûr.
paquet d'officiers de la marine, parce qu'il y a à la fois, d'abord, les deux frégates qui emmènent l'ambassadeur de France quand, y a pas, quand on est en période de paix. Hein. Donc, ils peuvent l'emmener par mer. Et à ce moment-là, ce sont les deux seuls bâtiments de guerre qui ont le droit de rentrer, de passer les détroits pour aller jusqu'à Constantinople. Il y a une escale à Smyrne et puis après, ils passent les détroits. Mais ce sont les seuls bâtiments de guerre français qui peuvent passer le détroit. Et puis, il y a tous ceux qui sont envoyés en mission hydrographique, en mission de surveillance. Il ne faut pas oublier tous les bombardements avec sur les Barbaresques, Alger, Tunis, Tripoli, Kio, tous les bombardements pour remettre un petit peu d'ordre en Méditerranée, parce que vous avez aussi l'appui de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre de Malte, qui fait la police en Méditerranée orientale, et puis même un petit peu plus loin, ils font toute la Méditerranée, et qui était un facteur. Donc il y a beaucoup de Français dedans. Pour les chevaliers de Malte, on a répertorié ceux qui sont mentionnés au moment de l'invasion d'Égypte en 1798. Donc, et puis les principaux, ceux qui sont chargés d'affaires, etc. Mais évidemment, on aurait mis tout l'ordre de Malte autrement. Donc, évidemment, on ne les a
Ah
pas
oui,
tous mis.
bah
C'est
oui,
pareil pour l'expédition d'Égypte. On s'est contenté à ceux de la Commission des Arts et des Sciences et ceux de la... la enfin, et des généraux. On n'a pas pris tous les autres, autrement, on aurait eu toute l'armée française. Et puis, il faut se dire que notre dictionnaire, il est très incomplet. On s'est toujours dit qu'il valait mieux donner ce qu'on avait, que ça pouvait quand même rendre service. C'est impossible d'être complet dans une matière comme celle-ci. Donc, on est toujours, Catherine et moi, nous sommes toujours très contentes quand on nous envoie d'autres renseignements. Ça nous permet au moins de les rajouter à notre documentation.
ah oui,
Mais c'est très
pas mal.
incomplet.
Bien
C'est
sûr.
très
Alors,
incomplet.
Admézin, il ne nous reste malheureusement que 4 minutes. Je ne voudrais pas que l'on oublie, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, de parler de tous les artistes, les peintres, qui, vos dictionnaires sont jalonnés d'une iconographie magnifique et qui nous montrent une connaissance quand même, déjà à cette époque, très précise des côtes, des reliefs. On découvre une architecture déjà quand on connaît un peu les lieux qui rappellent les endroits. Alors c'est sûr, quand on voit des cartes de Marseille, on rêverait d'un Marseille encore non urbanisé comme c'était le cas avant. Mais donc il y a un personnel très important de peintres, d'artistes qui reviennent avec un fourmillement de connaissances.
Alors, en général, ces artistes partent à la suite d'un ambassadeur et pour illustrer un petit peu l'ambassade. Donc, ce sont les principaux d'entre eux qui sont partis. Ben, je peux vous montrer le voyage de Nointel, de l'ambassadeur Nointel, et qui a fait le pèlerinage de Jérusalem. Et donc, vous avez cette vue de l'ambassadeur devant Jérusalem avec sa suite. Donc, vous voyez ses droguements, vous voyez sa suite, ses secrétaires, etc. Et donc, lui a fait le pèlerinage de Jérusalem. Donc, c'est Carré qui est sans doute l'auteur de cette série. Il y a aussi un tableau sur Athènes, enfin, il y avait quatre tableaux. Celui-ci a été retrouvé tout à fait, d'une façon tout à fait extraordinaire en 2019 lors d'une restauration d'un hôtel, l'hôtel des Chastoulobas, là, rue de Marigny à Paris. Il avait été caché au moment de la Seconde Guerre mondiale parce qu'à l'époque, l'hôtel appartenait à une famille juive. Et donc, ça avait été caché. Il a été retrouvé à l'occasion de travaux. Donc, il est intact, etc. Mais donc, ils avaient aussi dans leur fonction d'illustrer leur voyage. Mais vous avez des grands artistes comme Cassas. Ça, c'est notre couverture du deuxième tome. Donc, c'est un monastère de derviches tourneurs à Tripoli de Syrie, donc au Liban. Vous avez. Là, c'est une vue de. Ça, c'est un artiste néerlandais. Ce sont les voiles françaises dans la baie de Smyrne. Oui, donc voilà, donc effectivement, on a des très belles illustrations.
Ah
Catherine
oui.
est extrêmement forte pour pister ces choses-là.
Ah.
Et puis, on a beaucoup utilisé aussi les cartes et plans des archives nationales. Il y a un de mes chouchous qui est l'abbé, le père de Brévedan, qui était un jésuite, qui a été, à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, on a voulu envoyer des gens en Abyssinie. Donc, il a fait le voyage et il a écrit quatre lettres qui ont servi à dresser une carte qui est conservée aux Archives nationales et qui raconte son voyage parce qu'il a envoyé ses lettres et au département de la marine, on a dressé la carte à partir des indications de ses lettres, vous voyez.
Ah
Donc,
oui.
on a transcrit les indications, on a ces choses-là. Effectivement, c'est tout à fait fascinant et puis c'est bien de se rendre compte à la fois de l'environnement local et puis aussi des us et coutumes, des costumes,
Bien sûr.
de toutes
Alors,
ces choses-là.
Anne-Mézin, malheureusement, notre émission se termine. Un grand merci de nous avoir parlé. Ces Français, des échelles du Levant et de Barbarie, de Constantinople aussi, de François Ier à Bonaparte. Vous êtes co-auteur avec Catherine Vigne de Dictionnaires passionnants aux éditions Göttner. Merci beaucoup, madame, et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain. Au revoir.
Venu d'entendre les mardis de la mémoire dirigée par Anne Collin. Émission préenregistrée le 16 juin 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 30 juin de 10h à 11h et réalisée par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.